On va maintenant s'intéresser aux réactions face à l'expansion de Daesh. Qui lutte exactement aujourd'hui contre Daesh? Avec quelle force et quels moyens?
Le premier but, endigué, peut être atteint par une réaction militaire, par des frappes spécialisées, des drones, d'action de quelques forces spéciales. Donc le Daesh ne prend pas Bagdad, pour résumer les choses. Éradiquer, c'est autre chose. Puisque l'éradication n'est pas que militaire. Qu'est-ce qu'on fait après, à la place?
Endiguer, comme le soulignait Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, dans le passage qu'on vient d'entendre, c'est donc bien le premier objectif de la coalition internationale actuellement sur le terrain. À partir de juillet 2014, en effet, plusieurs centaines de soldats américains sont envoyés en Irak pour sécuriser des sites tels que le consulat général d'Erbil et l'ambassade américaine en Irak. Les premières frappes contre des positions de Daesh débutent le 8 août 2014 en Irak. Alors, à votre avis, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour frapper Daesh, qui s'est manifesté quand même dès le début de l'année 2014, en janvier, Fabrice Palonche?
Daesh s'est manifesté dès le début de l'année 2013 en Syrie. Contre les troupes de Bachar el-Assad, et à l'époque, l'Occident, ainsi que les pays arabes du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar, qui finançaient Daesh, trouvaient que Daesh était un acteur extrêmement intéressant pour faire tomber Bachar el-Assad. Par conséquent, il fallait plutôt le soutenir ou au moins le laisser faire. Ce n'est que lorsque Daesh a pris Mossoul, que Fallujah en Irak est tombé entre les mains de Daesh, que les États-Unis se sont réveillés et ont pris conscience que la créature qu'ils n'avaient pas créée, mais enfin qu'ils avaient laissé se développer, finissait par se retourner contre eux et représenter un danger mondial. Et donc là, ils sont intervenus. Ils sont intervenus, mais avec 2 mois de retard. Alors les frappes, évidemment, pour bloquer Daesh, non pas devant Bagdad, parce que Bagdad ne serait pas tombé entre leurs mains, mais plutôt devant Erbil, parce que les Peshmerga de Barzani s'étaient complètement écroulés. Et ce sont en fait les gens du PKK, venus de Syrie et de Turquie, qui ont empêché Daesh d'aller jusqu'à Erbil, le temps que les Iraniens arrivent à la rescousse, parce que c'est véritablement les Iraniens qui ont sauvé Erbil et Bagdad des attaques de Daesh, qui ont tout de suite envoyé des hommes, des conseillers militaires et des armes pour soutenir l'armée fédérale irakienne. Les Américains ont médiatisé évidemment énormément leurs frappes, mais elles ont eu un impact extrêmement limité. Alors il y a eu l'affaire de Kobané en Syrie, 6 mois de bombardement pour permettre aux Peshmerga du PKK de repousser Daesh. Une victoire vraiment symbolique. C'est essentiellement les Iraniens et l'armée fédérale irakienne qui luttent efficacement contre Daesh aujourd'hui.
Vous l'avez souligné, pour Barack Obama, tout juste sorti du bourbier irakien, pas question d'envoyer des troupes au sol. Tout juste 1600 conseillers militaires et des commandos. Alors j'ai envie de vous poser la question, s'il semble y avoir une tactique pour cette coalition, quelle est vraiment sa stratégie?
Justement, c'est ça le problème, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie parce que Barack Obama, après la chute de Fallujah, le califat et l'assassinat des otages américains, se devait de réagir pour son opinion publique.
Pour son leadership
aux États-Unis. On avait les élections à mi-term qui arrivaient. Il est accusé par les républicains de mollesse dans sa politique étrangère. Et là, il se devait de réagir. Il se devait de réagir aussi pour obliger ses alliés régionaux, la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite, d'être clairs sur Daesh. C'est-à-dire, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous, contre Daesh. Bon, Arabie Saoudite et Qatar se sont rangés du côté américain, participant à la coalition. Mais vous savez, 95% des frappes, ce sont les États-Unis qui les font.
Ils s'occupent de la partie logistique, en fait. Les Émirats accueillent le quartier général, ils donnent de l'aide humanitaire, mais ils sont très peu présents.
Oui, c'est le moins qu'ils puissent faire. Quant à la Turquie, elle a choisi son camp, puisqu'elle a refusé d'appartenir à la coalition. Elle a même refusé que les bases de l'OTAN situées en Turquie servent de point d'appui pour aller bombarder Daesh à Kobané. Donc on a une base à côté d'Adana, à 200 km de Kobané, et c'est à partir du golfe Persique, donc à 2000 km de là, ou à partir de la mer Rouge, que les avions sont envoyés pour bombarder Daesh. Donc là, il y a une Turquie qui joue son propre agenda, parce que Daesh continue à arranger Erdogan, qui veut l'élimination du PKK et qui veut faire tomber Assad.
Alors à cette occasion, et vous en avez parlé, Fabrice Balanche, la Turquie s'est faite remarquer pour son attitude attitude plus qu'ambiguë. Elle se trouve toujours dans une position aussi ambiguë aujourd'hui, la Turquie, où elle a clarifié son attitude.
Ah bah, elle a clarifié son attitude, elle soutient Daesh.
C'est vrai.
Pas officiellement, évidemment, mais la coalition ne peut toujours pas opérer à partir du territoire turc. Et Daesh, les combattants de Daesh peuvent toujours aller se faire soigner en convalescence en Turquie. Les djihadistes, les candidats au djihad passent toujours par la Turquie sans aucun problème. Je suis allé en Turquie en juin 2014, dans le sud, faire une enquête justement sur les réfugiés syriens et sur les réseaux djihadistes. J'étais effaré par ce que je voyais, c'est-à-dire des djihadistes qui étaient avec moi dans l'avion, entre Istanbul et Gaziantep, qui se promenaient en toute liberté à Kilis, à Urfa, facile à reconnaître, en treillis, des grands barbus, des tchétchènes, voilà. Et des associations humanitaires locales censées soigner les civils syriens, qui étaient en fait des guest-house pour djihadistes, de toute obédience. Qui passait la frontière sans aucun problème. C'était une vraie passoire. Alors que la Turquie a les moyens de fermer sa frontière sans problème. Il y a un barbelé, il y a des miradors tous les 500 mètres. Ils pourraient déployer leur armée et empêcher les passages. Mais non. Daesh, pour eux, est un acteur qu'il faut conserver contre les Kurdes du PKK et contre le régime d'Assad.
Alors, aux côtés de ces alliés plutôt douteux, il y a aussi de grands absents, les infréquentables, dirons-nous, comme le régime syrien de Bachar el-Assad et comme l'Iran, qui a refusé toute coopération par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, je cite « L'EI est un phénomène dangereux, mais qui ne pourra pas être battu par des frappes aériennes ». Pourtant, on a vu ces derniers jours, depuis le 2 mars pour être plus précise, que l'armée irakienne a lancé à Tikrit, une ville détenue par les djihadistes, une attaque sans précédent, une offensive qui impliquerait environ 27 000 hommes. Alors, aux côtés des forces pro-gouvernementales irakiennes, combattent aussi des milices chiites irakiennes, des tribus hostiles à Daesh, ainsi que les gardiens de la révolution iraniens. L'Iran s'engage donc dans la lutte contre Daesh, mais en dehors de la coalition. L'attaque contre Tikrit a d'ailleurs été lancée sans l'accord de Washington.
On sait que l'Irak est peuplé à 60% par des chiites. Le régime irakien, que ce soit celui de Maliki ou celui de Abadi aujourd'hui, est pro-iranien. Donc l'Iran aide son allié, puisque l'Irak, la Syrie et le Hezbollah libanais font partie de cet axe stratégique pro-iranien que nous avons dans la région, que certains appellent le croissant chiite. Et pour Téhéran, il est indispensable d'aider l'Irak. Donc Téhéran se devait d'intervenir. Les Américains sont pas d'accord, évidemment, parce qu'ils voient bien que c'est l'Iran qui mène le jeu en Irak. L'Iran n'a pas refusé de participer à la coalition, on ne l'a pas invité, hein, tout simplement. Difficile, les Saoudiens se sont opposés à l'intégration de l'Iran dans la coalition. C'était soit les Saoudiens, soit les Iraniens. Donc les Américains, évidemment, ont choisi leur meilleur allié, ce qui ne les empêche pas de collaborer avec les Iraniens.
Alors, on a une question qui refait surface aussi actuellement et plus que jamais. Faut-il soutenir Bachar el-Assad pour vaincre Daesh? Vous affirmiez notamment dans un article publié le 27 août 2014 sur Atlantico que, je cite, nous n'aurions pas d'autre choix que de renouer des liens avec el-Assad un jour.
Oui, bah d'ailleurs, John Kerry a confirmé ce que je disais, puisque le 15 mars, jour anniversaire du quatrième année de la crise syrienne, il a dit qu'il faudrait au final négocier avec Bachar el-Assad.
Et pourtant, on a des cas flagrants de complicité entre les tueurs du régime et ceux de Daesh. Ça a été relevé par Nicolas Hénin dans son livre Djihad Academy. Nicolas Hénin qui a été otage de Daesh et qui en est revenu. Bachar el-Assad a aussi à un moment quand même... plus ou moins soutenu Daesh en faisant libérer des prisonniers salafistes des prisons syriens pour décrédibiliser son opposition et la rébellion qui le menaçait. Alors les crimes de Bachar el-Assad sont donc solubles dans la monstruosité de Daesh aujourd'hui ?
Alors Nicolas Hénin, il ne faudrait peut-être pas trop accorder de crédit à ce qu'il raconte. Malheureusement, il est victime un peu du syndrome de Stockholm. Ce qui fait qu'il a une certaine empathie pour Daesh, aussi bizarre ça puisse paraître. Donc ses propos sont à prendre avec beaucoup de recul. Pas mal d'amis journalistes comme Christian Chesneau, Mal Bruno, Valérie Crova, etc. qui le côtoient et qui le trouvent un petit peu bizarre après son retour de captivité.
Il n'en reste pas moins que le régime de Bachar el-Assad a quand même mené depuis 4 ans une politique qui est absolument horrible contre la rébellion, contre son propre peuple. Est-ce qu'on doit choisir aujourd'hui la solution du moindre mal? Est-ce que ce n'est pas une faute morale, comme le disait Manuel Valls récemment aussi?
Oui, mais enfin, quand on fait de la géopolitique, il faut laisser les émotions de côté et puis avoir les yeux grands ouverts sur le réel. Aujourd'hui, le principal danger, c'est Daesh. Et si le régime syrien s'écroulait, on aurait Daesh à Damas. Donc, effectivement, comme disait Richelieu, hein, il faut faire des choix. Et c'est tout le temps un mauvais choix, de toute façon. Mmh. En Syrie, il n'y a pas de bon scénario. Mmh. On va être obligé de renouer avec Bachar el-Assad. Les États-Unis ont pris le tournant dès l'automne 2013, lorsqu'ils ont renoncé à frapper Damas. Ensuite, ils ont complètement changé de politique. Échange de l'arsenal chimique syrien contre le maintien de Bachar el-Assad. Si la rébellion arrivait à le faire tomber, tant mieux. Au bout d'un an, la rébellion n'a pas réussi à le faire tomber. Les rebelles modérés sont inexistants. L'opposition laïque au départ était minoritaire parce qu'on voyait effectivement des manifestations avec des intellectuels à Damas ou à Homs, mais derrière on ne voyait pas la vague de fond qui est une vague islamiste et une guerre civile communautaire qui se profilait. Donc maintenant on a une lecture un peu moins biaisée de la situation en Syrie et on se rend compte évidemment de tout cela. Alors l'opposition syrienne a toujours dit effectivement que c'était Bachar el-Assad qui avait créé Daesh. Pour un régime qui devait s'écrouler au bout de 3 mois, je trouve qu'il est particulièrement redoutable. Pourquoi l'opposition syrienne disait ça ? Parce que pour elle, il était inconcevable que Daesh puisse être un phénomène syrien. Il nous disait qu'il n'y avait pas de djihadistes dans la population syrienne, que jamais le djihadisme ne pourrait triompher. Donc, si vous avez un mouvement comme Daesh, soit c'est des gens qui sont étrangers, soit c'est le régime syrien qui l'a créé. Le régime a libéré quelques islamistes de ses prisons, effectivement. Des gens qui n'ont pas été vers Daesh, mais qui ont été plutôt vers des groupes comme Ahrar al-Sham, Sukur al-Sham, qui sont d'ailleurs aujourd'hui soutenus par l'Arabie Saoudite. Quand on trace justement les gens qui ont été libérés des prisons syriennes, c'est plutôt ça qui s'est produit. Parce que si on remonte aux origines, celui qui a créé finalement Daesh à la base, c'est Zarqawi. Le Jordanien. Zarqawi était en prison jusqu'en 1999, en Jordanie, et le roi de Jordanie a libéré. Donc si on est adepte de la théorie du complot, on peut dire que c'est le roi de Jordanie et donc la CIA qui ont créé Daesh, si on suit ce raisonnement-là.
Certes.